Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le magazine Capital propose ce mois-ci un numéro hors série consacré à l'histoire des grands empires économiques, de l'Égypte antique à la Chine de 2011. Et naturellement, c'est un thème qui a beaucoup inspiré Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Ce numéro spécial est très intéressant. On y découvre comment ont fonctionné les économies des civilisations qui nous ont précédés, ce qui permet de relativiser bien des choses, vous allez voir, et de méditer un moment sur les empires antiques, précolombiens, asiatiques. On reconstitue d'article en article les conditions de leur émergence, de leur décollage, de leur apogée, parfois de leur chute, vous savez, grandeur
et décadence.
Un chapitre a retenu spécialement mon attention, c'est celui qui raconte la naissance, à la fin du Moyen-Âge, de ces cités-états européennes comme Bruges, Venise ou Gênes, ce qu'on appellera la naissance dans ces cités-là, de ce qu'on appellera le capitalisme. Tout
alors,
simplement.
N'hésitez pas, posez vos questions à Franck Ferrand et à ses invités. Faites-le par écrit sur le site internet de la radio, donc d'Europe 1, www.europe1.fr ou la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Alors vos questions seront les bienvenues et aujourd'hui plus que jamais, car comme vous allez le voir, j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, de donner la priorité au débat sur le récit. Nous allons nous interroger sur les origines du système dans lequel nous vivons, mais aussi sur les autres systèmes économiques mis en œuvre ailleurs, autrefois.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est une tempête qui a décidé du sort de Bruges, une tempête énorme, sans précédent de mémoire d'homme, survenue un soir d'octobre 1134. Cette nuit-là, il faut imaginer un vent phénoménal, assez puissant, pour submerger la plupart des habitations côtières de toute cette région flamande et ouvrir un véritable bras de mer dans la côte, le fameux Zwin, qui va s'enfoncer dans les terres et viendra mourir à quelques encablures de Bruges. Les habitants de la région, après avoir compté les noyés et déploré tous les dégâts causés par cette tempête, ces habitants ne vont pas tarder à voir dans ce chenal un véritable don du ciel, de ceux qui ne se présentent pas deux fois, le plus vite qu'ils le pourront. Ça demandera quand même plus de 3 ans, évidemment. Ils construisent à son extrémité une digue transversale, une digue, ça se dit dam en flamand, le site de Dam, D-A-2-M-E cette fois, est né. Moins de 50 ans plus tard, Dam sera devenu l'avant-port de Bruges, un point stratégique qui reçoit du comte de Flandre, Philippe, le privilège de droit de ville assorti d'avantages exorbitants, notamment sur un plan fiscal. Vous savez, l'émancipation des villes dans ce Moyen-Âge, dans cette période, on est au XIIe siècle, ça passe toujours et d'abord par des exemptions fiscales. Dam n'a plus qu'à profiter sans scrupule de sa position imprenable et providentielle, ce dont elle ne va pas se faire faute. En quelques décennies, les taxes qu'elle percevait sur tout le trafic maritime vers Bruges vont l'enrichir dans des proportions considérables. Elle devient en quelque sorte le sas, l'étape obligée. Tout le trafic passe par elle dans les deux sens et c'est peu dire que les espèces sonnantes se mettent à pleuvoir sur la région. Les signes de la prospérité peuvent fleurir. Cependant, ce n'est qu'un peu plus tard et comme en réaction au sac des maisons de Dam en 1213, sac par les Français entre parenthèses, c'est le roi Philippe Auguste qui sévit à l'époque. C'est à ce moment-là seulement que les habitants de Dam vont se mettre à vraiment voir grand, à penser riche. Alors là, on va voir des rues qui s'allongent et se ramifient. On voit la ville se couvrir d'édifices plus ou moins opulents, un peu comme Bruges. Dam aura son hôtel de ville, son église gothique, son hôpital et même son béguinage. Comme Bruges, elle va instituer des guildes, elle va créer des patentes. Ces monopoles visent à l'importation de vins du sud-ouest de la France. En l'occurrence, à l'époque, c'est encore l'Aquitaine. Les vins en question, ce sont les ancêtres de nos Bordeaux actuels. On importe aussi beaucoup de harengs suédois. Et aujourd'hui encore, la petite place du marché aux harengs. Oh, c'est une petite place toute simple et même un peu désolée, cette place rappelle qu'à la toute fin du Moyen-Âge, Dame négociait encore quelques 28 millions de tonneaux de harengs caqués, ce qui est absolument colossal. Les harengs caqués, vous savez, c'est le hareng dont on coupe la tête hein, au niveau des ouïes pour qu'il se conserve mieux. On le colle dans la saumure et on les entasse en les serrant très... en les tenant très serrés dans des tonneaux. Dame, c'est donc l'antichambre, mais si vous prenez une de ces grosses barcasses pansues qu'on appelle les cogs et que vous empruntez depuis Dame ce canal qu'on appelle le Damsewaard qui devient la raille aux abords de Bruges, eh bien vous pénétrerez dans l'œuf d'or de la cité reine. Vous y entrerez comme ça par le nord-est et vous allez trouver de part et d'autre de ce grand canal de Bruges, vous allez trouver des grèves extrêmement bien aménagées avec des rampes, avec des poulies, des palans, des pontons et même une grue de bois. La grue de bois en question, elle a été reconstituée il y a quelques années. Il faut imaginer ici un port très actif, fourmillant, cosmopolite, quelques 17 nationalités se bousculent à la loge des Florentins, mais aussi à la pension Van der Beurs, où se font la plupart des grosses transactions. Van der Beurs, c'est ce nom de famille, ce nom de lieu aussi, qui au départ a donné son nom à la bourse, c'est l'ancêtre de nos bourses de commerce. De nos jours encore, il en reste de beaux vestiges, notamment des façades assez sublimes, même si elles ont été largement restaurées, revues, corrigées au XXe siècle. Sur le flanc sud de la Grand Place, on construit à l'époque le fameux beffroi, qui aujourd'hui encore domine la ville du haut de ses 83 mètres. On édifie aussi une immense halle aux draps. Et voilà, j'ai prononcé le mot, c'est le secret de la richesse brugeoise, importée de la matière première, c'est-à-dire essentiellement de la laine qui vient d'Angleterre et des îles britanniques, importée de la laine, la tisser, la préparer et puis l'exporter sous forme d'un produit fini, d'un produit de luxe, le drap, qui est fabriqué dans des ateliers qui, à la fin du XIIIe siècle, iront jusqu'à employer un tiers de la population brugeoise. C'est un petit peu, si vous voulez, la révolution industrielle avant l'heure que l'on vit dans ces Flandres, pas seulement à Bruges du reste, mais aussi à Gand, et puis bientôt à Anvers. Anvers qui pendant tout un temps détrônera Bruges, ne serait-ce que parce qu'elle se trouve directement sise sur la mer, alors que Bruges, vous l'avez compris, reste désespérément enclavée et sujette aux aléas de la marée et de l'ensablement du Zouine. C'est tout près de l'ancienne halle, qui aujourd'hui est devenue l'hôtel de ville. Elle a été entièrement transformée au XVIIIe et au XIXe siècle, et même au début du XXe. C'est tout près de cette ancienne halle, aux abords de la Spinola Rail, où l'ancien bras de mer disparaît tout d'un coup sous la chaussée. C'est près des derniers vestiges de ce qui fut un poste de péage pour les droits de douane qu'il faut s'imaginer l'encombrement de toutes ces cogues déchargeant la laine anglaise et le bois du Nord, rembarquant les chausses et le drap flamand et puis des épices venues d'Orient par les terres. Cette Bruges oubliée, celle du grand négoce médiéval, rivalise d'importance avec des ports comme ceux de Venise, de Gênes. Sa population talonne celle de Paris à l'époque. Elle dépasse celle de Londres. Bruges la Splendide, on en est loin à l'époque de Bruges la Morte. Bruges la Splendide est affiliée à la légendaire Ligue Hanséatique. On appelle ça aussi plus simplement la Hanse. Qu'est-ce que c'est que la Hanse? Eh bien, c'est une coalition de cités marchandes de tout le Nord qui ont Lübeck à leur tête et qui fédèrent des pôles de commerce et d'échange comme Hambourg, Stockholm, jusqu'à Novgorod vers l'est, Bruges, Londres et même jusqu'à La Rochelle vers l'ouest. Les Scandinaves vendent leurs harengs, les Russes leurs fourrures, les Polonais, les Prussiens leurs céréales, les Anglais, je vous l'ai dit, leur laine, les Gascons leur vin bien sûr, les Flamands leurs draps, leurs fines étoffes. Vous voyez que là, il y a une forte valeur ajoutée. Tout ce monde-là parle allemand, c'est la langue générale de la Hanse. Alors évidemment, les Flamands en général et les Brugeois en particulier ne vont pas s'en tenir à ce commerce autour de la Baltique et de la mer du Nord. Ils commercent aussi beaucoup avec le Sud, par voie de terre essentiellement, et le nœud de ces échanges Nord-Sud se trouve en plein Royaume de France, en Champagne. Ce sont les célèbres foires de Champagne. We'll be right back.
C'était le prologue de l'Orfeo de Monteverdi.
Monteverdi qui était vénitien, ça tombe bien puisqu'on va parler de Venise dans un instant. Alors, on est pour l'instant donc au 12e dans ces foires de Champagne, foires de Troyes, de Provins, de Lagny, de Bar-sur-Aube, qui deviennent des lieux de rencontres, d'échanges entre négociants du Nord, donc ceux de la Hanse dont je vous ai parlé, et puis négociants du Sud, à savoir surtout des Florentins, des Pisans, des Vénitiens et des Génois. Ces rendez-vous sont essentiels dans l'économie de l'Europe au XIIe, XIIIe siècle. On a pu dire que l'Occident de ce temps tournait autour des deux foires annuelles de Provins. Vous savez qu'il y a la foire chaude en printemps-été et puis la foire froide en hiver. Chaque foire dure environ 3 semaines, parfois davantage, notamment à Provins, ça dure plus longtemps. Elle se déroule, toutes les foires de Champagne se déroulent de la même manière. Vous avez une première partie, souvent une semaine, consacrée à ce qu'on appelle la montre, c'est-à-dire l'exposition des marchandises, des denrées, les premières négociations. Et puis une semaine qu'on appelle la vente, souvent ça dure même 10 ou 12 jours. Alors la vente, eh bien, ce sont les négociations effectives évidemment et les transactions. Et puis il y a la sortie de foire, un peu la troisième mi-temps si vous voulez. D'ailleurs comme la troisième mi-temps, c'était extrêmement festif et l'alcool coulait à flot, je vous prie de me croire. Cette fois, la langue de référence, puisqu'on est en Champagne, devient le français. Et du reste, les unités de mesure champenoises s'imposent à toute l'Europe. Pour le poids, on compte en mare de Troyes par exemple. La devise de référence devient une monnaie battue par les comtes de Champagne, le denier provinois. Ça ne durera pas longtemps parce que ça ne fait pas plaisir au roi de France. Mais enfin, néanmoins, ça existe. Du reste, ces comtes de Champagne jouent un grand rôle dans le développement des foires locales en accordant le fameux sauf-conduit. On appelle ça un conduit, tout simplement, au Moyen-Âge. Ça place les participants aux foires sous la protection, dans un premier temps, des comtes de Champagne et puis assez vite, du roi de France, puisque à partir de 1209, c'est le roi de France, Philippe Auguste, qui reprend ce sauf-conduit à son compte, ce qui, en ces temps favorables aux bandits de grand chemin, met les négociants relativement à l'abri des attaques et autres détroussements. Alors, quel genre de denrées échange-t-on sur la place de ces grandes foires champenoises ? Ben en gros, je vous ai dit, les fourrures, les draps, les salaisons du Nord, contre les épices et les soieries du Sud. Alors d'où viennent ces épices et ces soieries ? Ben, les épices du Moyen-Orient, évidemment, via notamment Alexandrie, grâce aux marins vénitiens et à leur comptoir, les soieries plutôt de plus loin, là-bas, de l'Extrême-Orient, via des comptoirs vénitiens, certes, mais surtout génois, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Ce qui nous amène au grand négoce du sud de l'Europe et à ces cités-états méridionales qui sont en Italie, le pendant de Bruges, de Gand, d'Anvers, etc. Et donc au premier rang, ces deux républiques, Gênes et Venise, qui se livrent alors une guerre d'influence, guerre commerciale qui en préfigure tellement d'autres. Le débouché principal de Venise, je vous l'ai dit, c'est son comptoir d'Alexandrie en Égypte qui lui assure la haute main sur tout le sud de l'Asie, sur l'Asie méridionale et ce qu'on appelle la route des épices. Quant à Gênes, sa force résiderait plutôt dans le réseau très serré de ses comptoirs de la mer Noire qui la mettent en relation privilégiée avec l'Asie centrale, ce qu'on appelle plutôt la ou les routes de la soie. Dans quelques temps, on parlera d'ailleurs de Marco Polo à ce micro. J'ai quelques révélations à vous annoncer, à vous faire. Et vous verrez que les routes en question sont en fait très nombreuses. Alors vous voyez la différence avec le Nord, et notamment avec les Flandres. Les manufactures de Venise et de Gênes ne pèsent pas vraiment lourd à côté de leurs armateurs, de leurs maisons de négoce. On ne produit pas beaucoup dans ces cités-états du Sud. En tout cas, on fait plutôt commerce de biens et de denrées élaborées plus loin en Orient. Or, à l'époque, armer des navires coûte cher. Le bois, les cordages, les voiles, les ancres, la clouterie, puis bien sûr toute la main-d'œuvre, tout ça entraîne des frais gigantesques. Ça pousse les armateurs à s'associer pour partager les frais et les négociants à s'entendre pour diviser les risques. Car les convois, surtout les convois maritimes, sont encore loin d'être sûrs. Une cargaison entière peut toujours sombrer en mer, ou bien elle peut faire les frais d'actes de piraterie qui vont se développer en même temps que tout ce grand négoce. Et dès lors, et selon l'importance du navire, son capital va être divisé en 16, en 24, en 32 parts, ce qu'on appelle à Venise et à Gênes des caras. Partage du capital et des risques, vous l'avez compris, ce qui est en train de se développer dès lors, ce sont les structures mêmes de ce qui, un jour, deviendra le monde capitaliste.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, jusqu'à 14h30, Franck Ferrand remonte aux origines du capitalisme.
Ben oui, que voulez-vous, Fatima, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, l'Europe dans laquelle nous vivons est d'abord une Europe de marchands. Or, ce n'est pas nouveau, puisque nous venons de le voir, c'est aux environs de cet entre, on va dire, entre l'an 1200 et l'an 1300, que le capitalisme commercial et financier a commencé de voir le jour en Europe, au sein de quelques grandes villes portuaires, ultra-puissantes, véritables cités-États, affranchies de tout le monde qui l'entourait, parce qu'on était quand même à l'époque féodale, par ailleurs. On a parfois tendance à oublier la coexistence des deux mondes, en quelque sorte. C'est à Venise et Gênes pour le sud, essentiellement, à Bruges et Anvers pour le nord, que tout a commencé. Concentration de moyens, partage des risques, organisation des comptes, sans oublier la nécessité de suppléer à des quantités insuffisantes d'or et d'argent. Nous allons y revenir, d'où la compensation, l'escompte, la lettre de change, etc. Ce sont les premiers banquiers, les premiers assureurs qui viennent au secours des premiers négociants modernes et qui ont instillé à l'Europe son dynamisme inouï, un dynamisme qui, en quelques siècles, allait faire des marchands européens les maîtres de la planète. En gros, on peut dire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Du reste, après l'Europe, ce sont des surgeons de l'Europe, à commencer par les États-Unis, qui prendront le relais. Alors cet après-midi, je suis entouré d'éminents économistes et historiens de l'économie. Patrice Picard est avec nous, il est rédacteur en chef des hors-séries de Capital, et donc en l'occurrence le rédacteur en chef de ce hors-série sur les grands empires économiques de l'Égypte antique à la Chine de 2011. La Chine de 2011, l'Égypte antique, ce sont quasiment des marronniers, mais je vous rassure, on ne s'en tient pas là dans ce numéro spécial, puisque vous évoquez un grand nombre de civilisations, du reste pour certaines très méconnues et qui gagnent à être abordées. Et puis Jean-Marc Daniel est avec nous également, professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris, auteur de l'histoire vivante de la pensée économique. C'est dans la collection Référence, hein, chez Pearson.
Chez Pearson, oui.
Et puis vous êtes également le directeur de la revue Sociétale. C'est à vous que j'aimerais poser la première question, Jean-Marc Daniel. J'aimerais savoir si ce capitalisme qu'on voit naître dans l'Europe du XIIIe siècle, j'en ai dit quelques mots seulement, hein, bien entendu, est-ce que c'est une création originale de cette Europe, ou est-ce qu'on a connu ailleurs, dans d'autres civilisations, avant cela, des systèmes qui ressemblaient à celui-ci ?
Alors, ça dépend comment on définit ce système capitaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, l'une des grandes caractéristiques de ce système, c'est la découverte de l'échange comme promoteur de la croissance économique, c'est-à-dire de la dynamique économique. Vous avez d'ailleurs, quand David Hume, plus tard au XVIIIe siècle, fera ses textes sur l'économie, David Hume va dire que les civilisations qui se développent sont les civilisations qui sont dans l'adversité. C'est-à-dire les petits pays, donc on le voit avec Bruges, on le voit avec Venise, les îles, donc il prendra l'exemple de la Grande-Bretagne, il dira donc, il y a une pression qui se fait, qui est une pression effectivement à l'adversité, et cette pression va générer le besoin d'échange et le besoin de générer un travail spécialisé qui va être ensuite échangé. Voilà. Et donc ça, si on définit le capitalisme comme cette vision où on échange un travail qui a été spécialisé, effectivement on a ça dans les cités antiques, on a ça dès Athènes. À Athènes, vous avez même...
Et même avant d'ailleurs.
Même avant, mais à Athènes, vous avez même des marchés à terme, c'est-à-dire que des gens qui anticipent la récolte future. Ce qui est intéressant aussi, c'est que face à ça, vous avez des réactions. Et c'est vrai que la croissance économique se heurte à des états d'esprit assez rapidement. Vous avez un exemple célèbre, c'est Suétone parlant de Vespasien.
Voilà, c'est Rome, hein, il faut bien dire que...
Rome, voilà, oui. Et donc Suétone parlant de Vespasien, Vespasien arrive devant une entreprise et il y a quelqu'un qui lui présente la modernité, une machine qui va permettre d'économiser une cinquantaine d'ouvriers. Et Vespasien lui dit, mais arrête tout de suite, ça c'est très mauvais parce que si ces gens n'ont pas d'emploi, ils vont devenir des misérables. Et donc il y a un rapport à ce moment-là de l'autorité romaine au travers de Vespasien qui est un rapport d'angoisse par rapport au progrès technique. Et donc là, le capitalisme, c'est donc l'échange, la division du travail, mais c'est aussi un rapport positif au progrès technique. Et ça, c'est extrêmement différent et diffus dans l'évolution historique. Il y a beaucoup de pays qui, en fait, ont la capacité technique du capitalisme, mais qui ont l'échange, mais qui n'ont pas le progrès technique, qui ne vivent pas le progrès technique comme un élément moteur.
Et comme le moteur essentiel, en quelque sorte. Donc on a un peu, c'est nous qui avons, si je puis dire, fait cadeau à la civilisation en général de cet aspect-là.
Le rapport au progrès technique, effectivement, assez, à mon avis, assez lié aux Européens et notamment à la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle.
Charmant cadeau.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, une émission consacrée à la naissance du capitalisme.
Je suis ravi parce que les questions commencent à affluer via Internet et via Facebook, ce qui prouve que le sujet pose énormément, suscite énormément d'interrogations. Alors, c'est pour répondre à ces questions que vous avez créé ce numéro spécial, Patrice Picard, ce numéro spécial de Capital. Vous revenez sur un grand nombre de civilisations. On essaiera à la fin de cette émission, si on a le temps, c'est mauvais signe quand je dis ça, mais enfin, on va essayer, je vous promets, d'évoquer un certain nombre d'autres civilisations. Mais dans un premier temps, restons à ces villes dont nous avons parlé, notamment à Bruges et à Venise. D'où vient-il que ces cités-États s'enrichissent à ce point et deviennent des pôles de négoce au tournant des années 1200, au tournant du XIIIe siècle ?
D'abord, il faut regarder les conditions de leur apparition. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à l'an 1000, l'Europe a très très peu de villes. C'est plutôt des villages enfermés dans la forêt, des monastères.
Et à partir de cette époque féodale, hein,
absolument. Et à partir de l'an 1000, il se passe quelque chose. L'Europe rentre en croissance démographique.
Avec un début d'urbanisation.
Voilà, en l'an 1000, il y a à peu près 40 millions d'habitants en Europe. En l'an 1300, il y en aura le double. Et donc, ces habitants supplémentaires, on peut les nourrir parce que l'agriculture fait également des tas de progrès avec le socle métallique des charrues, avec l'alternance des cultures, avec le début du maraîchage, on découvre le petit pois, le haricot blanc, etc. Et petit à petit, les villages deviennent des bourgs, les bourgs des villes. Et la formation de ces cités-États se fait en fait aux franges nord et sud de l'Europe, comme on l'a dit. Au nord, vous avez Bruges, Lübeck et un
certain nombre de villes. Donc toute cette ligue hanséatique,
en quelque sorte. Au sud, vous avez les grandes villes italiennes.
Qui, elles, se font plutôt la guerre. C'est curieux parce qu'au nord, on produit et on s'entend. Au sud, on négocie et on se fait la guerre. Est-ce que je caricature un peu?
Non, sud, le Moyen-Âge est absolument en Italie. Ce sont des guerres absolument continuelles entre les États papaux, les possessions de l'Empire byzantin, l'Empire de Charlemagne qui déborde sur l'Italie. Et puis, l'ensemble de ces villes indépendantes n'arrêtent pas de se faire la guerre. Il n'y en a qu'une qui est épargnée et reste absolument inviolée, c'est Venise. Ils sont dans leur petit coin, ils regardent vers l'est et ils sont imprenables puisqu'il s'agit d'une cité maritime, donc on ne peut pas la prendre par la terre et par la mer. Ils ont une flotte de guerre quand même relativement conséquente et ce serait impossible.
Donc, un système de gouvernement très efficace aussi, avec ces 40 familles qui tiennent littéralement ce qu'on appelle une république, qui est en fait une super aristocratie, disons-le.
Absolument, toutes les autres villes italiennes sont généralement aux mains de despotes familiaux, ce qui peut créer des troubles parce que des opposants à cette mainmise se déclarent tout le temps. Donc il y a également des guerres intestines dans chaque ville. Et Venise a un système tout à fait original qui n'est pas une démocratie, mais qui est un gouvernement par les nobles, qui élise un doge, qui lui-même en fait a très peu de pouvoir, l'essentiel des décisions étant prises par des comités où on vote à la majorité. Donc c'est cette stabilité politique.
La constantia
vénitienne. Ils ont la sécurité, ils ont la stabilité politique qui sont quand même deux avantages énormes.
Ils ont aussi, assez tôt, le bénéfice de toutes les prises de guerre de la quatrième croisade. C'est-à-dire qu'en 1204, Innocent III, dont on parlait la semaine dernière, a appelé l'Occident à la croisade. Et finalement, les navires vénitiens ont transporté les croisés seulement jusqu'à Byzance. Et là, on a mis la ville à sac, littéralement.
Oui, les Vénitiens malins ont demandé aux croisés, ont totalement détourné la croisade de son objectif et ont dit... venez, on va d'abord prendre Zadar sur la côte d'Almate et puis ensuite on va piller Constantinople. Donc en 1204, les Vénitiens sont arrivés avec les croisés et ont pillé totalement Constantinople. On mit des espèces de rois francs à la tête de Constantinople et se sont fait accorder 3/8 de l'Empire.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des comptoirs, ils ont énormément de territoires.
Voilà, ils se font accorder 3/8 de l'Empire, le droit de commercer dans tout l'Empire byzantin et donc ils établissent une série de ports dans l'Empire byzantin. Et puis ensuite, ils relient Venise à l'Empire byzantin en établissant des comptoirs sur toute la côte d'Almate, tout le Péloponnèse, la Crète, les Cyclades. Et puis ensuite, ils poursuivent jusqu'à la mer Noire et ils ont un chemin de commerce et jusqu'à Alexandrie, ils ont un chemin de commerce tout à fait...
La Méditerranée, à l'époque, appartient moitié à Venise, moitié à Gênes.
Moitié à Venise, moitié à Gênes. Venise plutôt orientée vers Alexandrie, c'est-à-dire la route des épices.
Le Moyen-Orient.
Oui, le Moyen-Orient et la route des épices qui proviennent d'Inde et du Moyen-Orient. et puis Gênes, plutôt orienté vers les comptoirs de la mer Noire, c'est-à-dire le bout de la route de la soie, plutôt lac, porcelaine.
Mais nous verrons avec Marco Polo que les Vénitiens aussi peuvent aller très loin vers l'Extrême-Orient. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'en Chine? Ça, c'est une autre question. C'est Mathieu Carquin qui signe le long et bel article que vous consacrez dans ce numéro spécial à ces cités-états de l'Europe pré-capitaliste. Je rappelle que c'est un numéro spécial du magazine Capital consacré aux grands empires économiques. Nous revenons pour parler de tout ça et de bien d'autres choses et pour répondre à toutes vos questions aussitôt après le flash, parce que je vois qu'il est l'heure et que ça va bientôt être donc le flash de 14h.
Bon après-midi à tous avec Europe 1, il est 14h.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans la deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui aux origines du capitalisme.
Et cette émission qui est réalisée à l'occasion de la parution en kiosque, il est en kiosque maintenant le magazine, de ce numéro hors série de Capital sur les grands empires économiques de l'Égypte antique à la Chine de 2011. Et le rédacteur en chef de ce numéro, Patrice Picard, est avec nous. C'est quand même pas un hasard, Patrice Picard, si toutes les villes dont nous avons parlé sont, de près ou de loin, des ports. Alors, on a vu que dans le cas de Bruges, c'est un port un peu enclavé, un peu loin de la mer. Mais enfin, globalement, une grande partie de ces échanges s'effectue par voie maritime.
Au début, non.
Au début, c'était par voie terrestre avec les caravanes.
Donc, voilà. Effectivement, le nord et le sud se rencontrent par voie terrestre et aussi en naviguant sur la Meuse et le Rhin. Et ensuite, à partir de la fin du XIIIe siècle, les bateaux, grâce au gouvernail des Tambos, sont capables de franchir...
Il faut expliquer en deux mots le gouvernail des Tambos. C'est fondamental pour nos plus jeunes auditeurs, notamment.
C'est le gouvernail classique qu'il y a maintenant sur tous les...
Gouvernail à pivot manuel, en fait.
À pivot manuel, avec une barre, qui permet de naviguer contre le vent.
Et donc, c'est fondamental, ça permet de naviguer toujours, en quelque sorte.
Tout à fait, et grâce à ce gouvernail, on peut franchir le détroit de Gibraltar à ce moment-là. Toutes les cités du Nord et gérées par la Ligue Hanséatique jusqu'à La Rochelle, la navigation peut se poursuivre jusqu'au sud et la jonction est faite. Et c'est à ce moment-là que les ports, les villes-ports deviennent plus importantes que les villes à l'intérieur des terres.
J'ai parlé tout à l'heure des langues et de leur rôle fédérateur. Dans les villes de la Ligue Hanséatique, on s'efforce de parler l'allemand. Dans les foires de Champagne, la langue prioritaire est le français, même si elle peine à s'imposer. Évidemment, on parle l'italien plus au sud. Mais est-ce qu'on peut dire que tous ces échanges, Jean-Marc Daniel, vont avoir des conséquences sur l'harmonisation des mesures, de tout ce qui constitue des repères, en quelque sorte.
Oui, ce qu'on peut considérer à cette époque-là, c'est qu'effectivement, c'est une époque où il y a des progrès scientifiques qui apparaissent. Donc la prise de Constantinople est un événement majeur. Ça, mm-hmm.
ça
apporte.
Ça, c'est un peu plus tard, donc 1453.
Hein. Non, en 1204.
Ah, vous parlez du sac de 1204,
La prise par les croisés de Constantinople en 1204 va d'abord distribuer une partie de l'or qui a été accumulé par les Byzantins dans les églises, dans les trésors. Il y a une espèce de manie de l'or chez les Byzantins qui va apporter un afflux monétaire qui va...
Alors ça, c'est fondamental.
Oui, c'est fondamental. On trouve des mines d'argent à la fin du XIIe siècle, plus l'or des Byzantins. Et donc, il y a un mécanisme monétaire qui apparaît avec le besoin d'une définition d'une unité monétaire. Vous parliez des foires de Champagne. C'est à cette époque-là qu'on définit les poids d'or et l'once que l'on est en train de coter en ce moment à 1 500 $ l'once. Elle s'appelle once Troy parce que c'est l'once telle qu'elle a été définie à Troyes.
Foire de Champagne.
Foire de Champagne. Oui, et donc, l'unité monétaire de référence, qui est le poids d'or, se définit à ce moment-là par rapport à la Champagne. Le deuxième élément, c'est que sur le plan scientifique, les Byzantins aussi apportent, par rapport à leur contact avec les Arabes, apportent les nouvelles mathématiques. Et notamment deux éléments forts, donc l'utilisation des chiffres arabes, qui va permettre de faire une comptabilité. Et surtout, qui va permettre.
L'invention de la comptabilité en partie double, c'est
au XIVe siècle, c'est un peu plus tard. Et c'est à Gênes qu'on voit apparaître cette comptabilité en partie double. Mais là, on peut faire des opérations.
Déjà des opérations comptables.
Et notamment, on peut faire des divisions, ce qui est très difficile à faire.
Des divisions.
On peut faire des additions et des multiplications avec les chiffres romains. C'est très difficile de le faire avec les chiffres arabes. Ce qui va avoir une conséquence qu'on ne mesure pas, c'est qu'on peut résoudre les équations du second degré. C'est-à-dire qu'on peut déterminer sur le plan géométrique des champs dont on connaît le périmètre et la surface. Et donc, il y a tout un rapport nouveau à la propriété.
À l'espace
et à la propriété. On va pouvoir définir très clairement clairement de quoi on est propriétaire, parce que on peut déterminer les champs par rapport à des caractéristiques que les gens perçoivent, qui sont la surface et le périmètre.
Et puis la division va être essentielle lorsqu'il va s'agir de se partager et les risques d'un côté et les bénéfices de l'autre.
Alors on va pouvoir faire des parts, et donc on va pouvoir passer effectivement de l'entreprise strictement familiale à l'entreprise qui va être d'abord ce que les Italiens appellent une comanda, une commandite, c'est-à-dire une entreprise où des gens se regroupent pour une commande particulière, pour un objet particulier. Donc, et cette école mathématique d'ailleurs va durer, puisque Venise va être, c'est à Venise qu'on invente après la solution de l'équation du troisième et du quatrième degré. C'est donc, les mathématiciens sont dans cette zone-là. Alors, le troisième aspect dans ces modifications, c'est effectivement sur le plan intellectuel les réformes qui sont liées à l'émergence des dominicains, c'est-à-dire que vous avez
ces ordres mendiants.
Avez les franciscains et les dominicains, donc vous avez toute la théorie économique qui apparaît avec Saint Thomas. Donc Saint Thomas, c'est à la fois le juste prix, c'est-à-dire l'idée que l'échange peut donner lieu à un prix qui soit un prix acceptable pour tous. Et puis c'est l'idée qu'on va faire la différence entre l'usure et l'intérêt, c'est-à-dire que le fait de prêter à quelqu'un n'est pas forcément quelque chose de condamnable.
N'est pas un péché forcément.
N'est pas forcément un péché. Alors ça prendra du temps, puisque dès le
début... En France, ce sera très long. Hein.
Oui, et puis dès le début du XIVe siècle, le pape Clément V, qui est le pape qui est connu pour l'affaire des Templiers, va rappeler l'interdit du prêt à usure. Il va redéfinir prêt à intérêt et usure. Il va confondre les deux. Donc vous avez ces trois éléments, des unités de mesure qui s'imposent, une technique mathématique qui est derrière. Effectivement, la possibilité sur le plan d'organiser des commandites, d'organiser des sociétés, et puis ce nouvel état d'esprit.
Alors il y a aussi une sorte de déréification, comment est-ce qu'on pourrait dire, de dématérialisation d'un certain nombre de transactions, avec notamment la lettre de change. Il faut expliquer, ça c'est fondamental.
La lettre de change et le
la banque... Expliquer ce que c'est qu'une lettre de change, c'est
fondamental. La lettre de change et la banque, c'est le constat assez simple que font assez vite les contemporains. Donc on voit apparaître de l'or, on voit apparaître de l'argent, donc on transporte des métaux précieux, mais la grande caractéristique de ces métaux précieux, c'est qu'ils sont lourds.
Ils sont lourds à transporter.
Donc toute personne qui les transporte, d'une part, est très vite rattrapée par les brigands, parce qu'il est alourdi dans son déplacement. Et d'autre part, une fois que les brigands ont l'or, eux-mêmes sont alourdis. Et donc, pour être sûr de ne pas être rattrapé, en général, ils vous tuent. Donc, le vol devient synonyme de meurtre. Il n'y a pas uniquement vol, il y a aussi meurtre ipso facto. Et donc, il faut trouver un moyen de transporter des fonds sans avoir à transporter des fonds lourds. Donc, on va émettre ces lettres de change, c'est-à-dire ces papiers qui vont être dans des réseaux, qui sont des réseaux qui vont permettre de récupérer l'or à différents points. Et comme ces échanges se font sur des tables, et qu'en latin, la table, ça se dit banca, bancae, c'est les gens qui reçoivent l'or sur une table.
D'où le mot banque.
Ouais. Et alors, c'est Venise qui lance plus ou moins ça, et à Venise, si on va d'ailleurs, elle existe encore, la masse, il y a une police de la banque, et quand banquier n'est plus capable d'honorer ses engagements en termes d'or à fournir, la police arrive avec cette masse et démolit la table, donc casse la table,
casse la banque,
et donc il rompt la table, il y a une bancarrupta, et à ce moment-là on dit qu'il y a eu banqueroute. Au XIIIe siècle apparaît cette expression de banqueroute.
Vous voyez que finalement tout a une origine et que chaque mot peut s'expliquer.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1, jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningen, petit. Tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du nord, bien les digues. C'est le vent du nord qui transperce les yeux des hommes du nord, jeunes ou vieux. Pour faire chanter des carillons de bleu venus du nord au fond de leurs yeux. Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait tourner la terre autour de Bruges, petit. C'est le vent du nord qui a raboté la terre autour des tours de Bruges. Et qui fait que nos filles ont le regard tranquille des vieilles villes, qui fait que nos belles ont le cheveu fragile de nos dentelles, mon père disait, c'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges, entre Zeebrugge, petit. C'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre Zeebrugge et l'Angleterre. Et Londres n'est plus comme avant le déluge.
Jacques Brel sur Europe 1, c'était « Mon père disait », une chanson pour illustrer ce haut cœur de l'histoire consacrée aux origines du capitalisme.
C'est une manière d'adieu au Nord et à la Flandre, puisque j'aimerais qu'on se concentre pour le temps qui nous reste sur ces grandes cités états méridionales, et notamment sur la splendeur de la sérénissime République de Venise, Patrice Picard, qui avait étendu son emprise sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et même bien au-delà, à travers les routes des épices et accessoirement de la soie. Où elle se disputait les comptoirs avec Gênes.
Disons que les Vénitiens effectivement contrôlent toute la Méditerranée. D'une certaine manière, la Méditerranée reste un lac isolé et ils font un peu le dernier kilomètre. Ce sont les autres qui se chargent d'amener les marchandises à travers toute l'Asie. Par deux routes principales. Premièrement, la route de la soie qui passe par l'Asie centrale et deuxièmement, la route qui va de l'Inde au golfe Persique, puis à l'Égypte, par cabotage, le long des côtes.
Alors, ce qui veut dire que tous ces pays-là sont extrêmement actifs, qu'ils produisent des produits finis, qu'ils ont donc eux aussi une activité florissante à l'époque dont nous parlons.
Tout à fait, à l'époque dont nous parlons, Venise...
Donc on est au XIIIe siècle, en gros,
XIVe. Oui, Venise fait peut-être 120 000 habitants, dont 36 000 marins. Les villes chinoises, il y a deux villes chinoises qui font plus de 1 million d'habitants, Kaifeng et Hangzhou.
Donc ça relativise les choses.
Ça relativise un peu les choses. Samarcande est presque déjà bien avant Tamerlan presque aussi importante que Venise. C'est un des grands carrefours de la route de la soie. Et puis le Caire est également plus vaste que Venise. Donc effectivement, nous sommes dans un monde qui émerge de l'obscurité du Moyen Âge. Mais ailleurs, il y a de très grands empires, la Chine, l'Empire arabe, l'Empire perse des Seljoukides, qui rivalisent sans aucun problème avec l'Orient, qui sont plus avancés technologiquement et scientifiquement.
Scientifiquement avancés, politiquement très, très puissants et stables, économiquement très développés aussi, ce qu'on a parfois eu tendance un peu à négliger. Alors, il faut, quand on relativise dans un sens, il faut aussi savoir le faire dans l'autre. Vous disiez que Venise est 120 000 habitants à l'époque,
à peu près,
dont un quart de marins, mais c'est une cité-État, avec tous ses comptoirs, qui est aussi riche que peut l'être un royaume comme la France, par exemple, qui
tout
pourtant est immense et compte des millions en tout cas d'habitants.
Tout à fait, et ça grâce à un commerce qui, si on le rapporte à l'échelle actuelle, en un an, Venise transportait à peu près ce qu'un porte-container aujourd'hui, un seul, peut transporter. Et ça suffisait à faire sa richesse, et ça suffisait à faire la place Saint-Marc, le palais des Doges.
La pincée de poivre coûtait cher à l'époque.
Absolument, la pincée de poivre coûtait cher et les profits étaient considérables.
D'ailleurs, quand on parlait d'épices, d'espèces, puisque nous étions dans l'étymologie tout à l'heure, Jean-Marc Daniel, là aussi, ça vient de là, finalement.
Absolument.
Les espèces, ce sont les épices, en quelque sorte. Vous parliez d'évolution des sciences, des techniques, des modes de vie aussi. C'est l'époque où on invente tout simplement la lunette, ça joue un rôle. On mesure le temps également. Vous parliez de mesurer l'espace, mais on mesure le temps. C'est très important.
Oui, on commence à découvrir des techniques d'ailleurs que connaissaient les Grecs pour mesurer le temps. C'est-à-dire qu'on recommence à trouver des clepsydres. Vous avez le pape de l'an 1000, Sylvestre II, qui avait redécouvert la mesure du temps, qui a redécouvert le balancier pour essayer de réguler la mesure du temps, les horloges. Et alors, c'est une époque, pour compléter ce qui vient d'être dit, je ferai deux remarques. La première, les Chinois, effectivement, sont assez développés, mais ils viennent de subir le choc de la conquête mongole. Donc, c'est une époque où la Chine est quand même dans une période un peu délicate sur le plan politique,
oui.
Parce que le pouvoir n'est pas issu des masses
populaires. Ce ne sont pas les Han, ce sont les Yuan.
Mais du coup, c'est aussi une période dans laquelle la route de la soie est absolument ouverte. Ça s'appelle la Pax Mongolica.
Oui.
Et donc, de la Chine à la Méditerranée, les Mongols contrôlent tout. La route est ouverte, oui. et ça circule plus que jamais.
Et sur la soie, il faut voir que les Byzantins avaient volé des vers à soie à l'époque de Justinien pour fabriquer eux-mêmes de la soie chez eux. Par exemple, les Phéniciens, le Péloponnèse, ils l'appellent la morée. Pourquoi la Morée? Parce que la Morée, c'est le pays où il y a des mûriers, c'est-à-dire c'est l'endroit où on fabrique de la soie. Donc les Vénitiens eux-mêmes fabriquent de la soie. C'est-à-dire que dans le projet vénitien, il y a aussi le fait de commercer, mais il y a aussi le fait d'être à l'avant-garde de la maîtrise des technologies et donc la maîtrise
d'importer des techniques, en fait.
D'importer des techniques et de ne pas être totalement dépendant de l'extérieur. La dernière remarque que je ferai sur les Vénitiens, on a parlé des troubles de l'Italie. Venise est toujours absente de la guerre entre les Guelfes et les Ghibelins. Oui. Au XIIIe siècle, c'est le grand moment
la guerre intestine
en Italie. Quand vous prenez la production intellectuelle, Dante, lui, il ne conçoit la paix que par un empire. Les Vénitiens, eux, ont déjà une réflexion de commerçants et leur souci, c'est d'éviter de se mêler de ces histoires extrêmement violentes qui opposent les cités italiennes autour du statut du pape et de l'empereur.
Ne s'immisce pas dans les affaires de la péninsule.
Oui, ils regardent pas ça, ils regardent ça de très loin et ces histoires religieuses les intéressent assez peu. Et donc, ils sont très pragmatiques dans leur façon d'appréhender, y compris la politique.
Est-ce que ce pragmatisme, d'ailleurs, n'est pas le point commun de toutes les cités-États dont nous parlons aujourd'hui ? Finalement, elles ont toujours à l'esprit des intérêts extrêmement concrets, parce qu'elles sont régies directement par des marchands. Il n'y a pas de seigneur, c'est bien ce qu'on racontait
tout
à l'heure.
Oui, la force, effectivement, il n'y a pas de seigneur, et puis il n'y a pas non plus d'évêque. C'est-à-dire que
il y a des cités qui sont entre les
mains des évêques et des religieux, et qui sont directement impliquées dans le combat politique. Ces cités-là, elles sont totalement orientées vers une logique qui est une logique strictement commercial.
D'ailleurs, à cette époque, il y a un proverbe allemand qui naît et qui dit « l'air de la ville rend libre
». Parmi un chapelet de questions, Grégoire nous demande comment ces cités-États ont réagi à la découverte du Nouveau Monde. Quel a été donc l'impact de ces grandes découvertes qui donc interviennent un peu plus tard, à la fin du XVe siècle? Ces cités seront-elles mises de côté, nous demande Grégoire, pour n'avoir pas de côte sur l'Atlantique?
Oui, on peut considérer ça en partie. Effectivement, il est plus facile de partir depuis le Portugal, la France vers l'Amérique ou l'Espagne que de partir depuis Venise. Mais Amerigo Vespucci, qui donne son nom
Après tout, lui, il est italien.
Donc, ils essaient malgré tout de continuer à...
Et Colomb,
Christophe Colomb est génois.
C'est pas un hasard, d'ailleurs. On dit ça comme une boutade, mais le fait que Christophe Colomb soit génois d'origine n'est pas du tout un hasard dans cette affaire.
Le gros problème de Venise va être aussi là, le moment où Venise s'insère dans le débat politique. C'est-à-dire Venise commence à faire des guerres, Venise se retrouve dans une situation au XVIe siècle où elle est en guerre avec le pape, et donc quand Venise commence à rentrer dans une affaire qui est un problème politique, quand Venise devient le rival de l'Empire ottoman, Venise n'a plus la carrure économique pour faire face à ses ambitions politiques.
Oui, même avant ça, la peste en 1348 ferme un peu la route de la soie. La Chine perd 30% de ses habitants, la plupart des pays d'Asie aussi. Ça désorganise totalement le commerce sur la route de la soie, donc ça frappe un peu le commerce des Vénitiens et des Génois. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'extension de l'Empire ottoman, y compris jusqu'au Kosovo, c'est-à-dire pas très loin de Venise. Et c'est l'Empire ottoman qui devient un grand concurrent pour Venise sur toute la Méditerranée orientale.
Alors cette fois, nous sommes bien dans la bonne prise de Constantinople, si je puis dire. Nous sommes passés de 1204 à 1453.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous raconte les origines du capitalisme.
Tout en feuilletant le numéro spécial, numéro hors série du magazine Capital, consacré aux grands empires économiques. Et en feuilletant comme ça, je tombe sur un des articles que vous avez signé vous-même, Patrice Picard, sur cet immense, cet invraisemblable empire mongol, je dis bien mongol, dont on ne parle quasiment jamais, mais qui domine cette période dont nous parlons, cette période du XIIIe siècle.
Oui, disons qu'il a une fonction économique. Genghis Khan conquiert un empire absolument immense qui va à sa mort de la Perse pratiquement au Vietnam actuel. Ses enfants et ses petits-enfants l'agrandiront encore. Son petit-fils Oulougou prenant Bagdad, ce que les croisés n'avaient pas pu faire pendant plusieurs siècles, il le fait en 2 ans. Et donc, à ce moment-là, le califat abbasside tombe et l'Empire mongol rejoint les rives de la Méditerranée. Et puis, un autre de ses petits-fils, Kublai Khan, devient empereur de Chine. Donc, la conséquence pour l'Europe, c'est évidemment que de la Chine à la Méditerranée, c'est une autoroute. Et la route de la soie permet à l'Europe de découvrir des tas de choses, parmi lesquelles... le cresson, les navets, un certain nombre de techniques mathématiques indiennes et arabes. Et puis, effectivement, tous les biens de luxe qui viennent de Chine.
Pendant très longtemps, le luxe et l'Orient étaient quasiment des termes synonymes.
Oui, parce que la céramique, les parfums, tout ça provient d'Orient. La soie, ce sont un peu les trois grands biens de luxe au cours de cette période.
Alors aujourd'hui, et depuis quelques années, le centre de gravité des affaires est en train de se déporter vers l'Asie, ce qui nous effraie beaucoup, bien entendu, et qui fait couler énormément d'encre en Europe et d'une façon générale en Occident. Mais le moins qu'on puisse dire, Jean-Marc Daniel, c'est que ça n'est pas la première fois. C'est une espèce de mouvement de balancier qui se perpétue comme ça entre l'Orient et l'Occident.
Oui, oui, il y a des mouvements de balancier. Ce qui est frappant, ce qu'on a oublié, c'est à quel point le 19e siècle a été une période d'abaissement de la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine reprend une place qui lui avait été historiquement...
Oui, la Chine était descendue très bas.
Était descendue très bas. Entre 1842, qui est le traité de Nankin, la fin de la guerre de l'opium, et puis l'arrivée des communistes au pouvoir, il y a une série d'abaissements de la Chine qui est assez spectaculaire. Alors, une autre chose qui me frappe dans ce basculement, c'est quand même le rôle qu'a joué la Grande-Bretagne, qui est un tout petit pays, là aussi, comme Bruges ou comme Venise. Et la force de la Grande-Bretagne, par rapport à tous les autres capitalisme, c'est d'avoir, comme je le disais au début, intégré parfaitement le rôle du progrès technique. C'est-à-dire que dans le numéro, il y a un portrait d'Adam Smith qui est assez intéressant, qui est assez original. Et même Adam Smith n'avait pas vu le rôle du progrès technique. À un moment donné, il a comme sous-locataire James Watt, et il dit à James Watt, qui est en train d'inventer le régulateur qui va faire la révolution industrielle, il lui dit, renoncez à ça, ça n'a aucun avenir, le monde n'a pas besoin de vos inventions. Donc, la capacité à projeter l'innovation, à faire du progrès technique une source de croissance, c'est vraiment la Grande-Bretagne de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle qui va la mobiliser. Ça va lui donner un avantage considérable et elle va l'utiliser en particulier pour abaisser la Chine. Des ennemis privilégiés, des souffres-douleurs privilégiés des Occidentaux au XIXe siècle, ça va être la Chine.
On se rappelle le sac du Palais d'été qu'on a raconté à ce même micro et qui a été un peu le symbole et le moment fort de cet abaissement, de cette politique très ancienne. Ce numéro spécial, ce hors-série, s'ouvre sur une interview de l'historien Philippe Norel qui, justement, remet les choses complètement en perspective et nous dit, Patrice Picard, qu'en fait, l'Occident n'a pas toujours dominé le monde par ses techniques et par son commerce.
Ben, si on regarde depuis l'ère chrétienne... Disons qu'il y a probablement un match nul sur les quatre premiers siècles entre l'Empire romain et puis la Chine des Han, la fin de la Chine des Han. Et puis, il y a les quatre derniers siècles dans lesquels il y a une domination de l'Occident. Ça ne fait jamais que 8 siècles sur 20. Si on élargit la perspective et qu'on prend les millénaires de l'Antiquité, c'est encore plus défavorable à l'Occident puisque la Chine domine pratiquement continuellement les 2000 ans qui précèdent notre ère.
On est bien peu de choses, que voulez-vous que je vous dise. Un numéro hors série de Capital, numéro histoire de l'Égypte antique à la Chine de 2011, les grands empires économiques, c'est en ce moment dans les kiosques et ça ouvre de grands horizons.